La mort d'Artus, chapitre 29. La trahison de Mordred. Aussitôt que le roi Artus fut parti, et qu'il se vit sire de la terre de l'ogre, il commença de tenir de grandes cours et de faire de riches dons, si bien qu'il conquit en peu de temps les cœurs des plus hauts hommes. Alors il fit écrire de fausses lettres, scellées d'un sceau semblable à celui du roi Artus, qui furent portés par son ordre à la reine. Et celle-ci les bailla à un évêque d'Écosse qui était assis auprès d'elle, pour qu'il en donnât lecture devant toute la cour. Or, les lettres contenaient ce qui suit. « Je, Artus, roi de l'ogre, à tous mes hommes, salut. Comme j'ai été blessé à mort par Lancelot du Lac et mes gens Oxy et Défait, il me prend pitié de vous à cause de l'amour et de la loyauté que vous m'avez toujours montrés. C'est pourquoi je vous prie, pour votre bien et pour la paix de mes royaumes et terres, d'élire roi Mordred, que je tenais pour mon neveu, mais qui ne l'était pas. Et je vous requiers aussi, par les serments que m'avez faits, de lui donner la reine pour femme. Sinon, un grand dommage vous arrivera. Car si elle n'est pas mariée, Lancelot viendra vous la prendre de force, et c'est la chose sur toute dont mon âme serait dolente. » Quand l'évêque eut achevé, Mordred fit semblant de pâmer de douleur et se laissa tomber dans les bras d'un chevalier. Mais la reine, qui croyait que la lettre était vraie, se mit à pleurer et à pousser des plaintes si merveilleuses qu'il ne fut personne qui n'eût pitié d'elle. Et lorsque la nouvelle courut par le palais et la cité, tous, pauvres et riches, commencèrent de mener grand deuil. Jour et nuit, durant une semaine, il n'y eut personne qui ne pleura. Car le roi Artus avait toujours été doux et débonnaire, et c'était le prince du monde le plus aimé du menu peuple. Cependant, les barons tinrent conseil, et ils trouvèrent que le mieux était de faire Mordred roi et de lui donner la reine Guenièvre pour femme. Aussi les envoyèrent-ils quérir tous deux. Et sachez que, quand elle entra dans la salle, ils se levèrent devant elle et la reçurent à grand amour. Puis celui qui était le mieux en parler lui dit « Dame, notre sire le roi, qui était si prud'homme, est mort et trépassé du siècle. Et comme ce royaume ne peut demeurer sans gouverneur, il nous faut élire un bon chevalier qui soit digne de le tenir et qui vous ait pour femme. Mais nous voulons savoir ce que vous pensez de cela. » La reine protesta qu'elle ne se souciait pas de prendre un baron et qu'elle quitterait plutôt le pays. À quoi ils répondirent que le royaume ne pouvait demeurer sans un seigneur qui fût capable de le défendre, et qu'elle devait à toute force faire leur volonté et épouser Mordred qu'ils avaient choisi. Ah, quand elle entendit ce nom, elle crut que son cœur allait la quitter, mais elle n'osa en faire semblant. « Beau seigneur, dit-elle, accordez-moi quelque répit. Dans 8 jours, je vous donnerai ma réponse. » Et elle se retira dans ses chambres. Chapitre 30. La reine dans la tour. Là, elle commença par pleurer, s'égratigner le visage, se tordre les mains et gémir de tout cœur. Puis elle réfléchit et envoya une de ses pucelles chercher Tarquin. C'était un valet que jadis le roi Claudas avait chargé de l'épier, comme le comte l'a rapporté en temps et lieu. Mais il était devenu son écuyer, puis le roi l'avait armé chevalier. Et c'était maintenant l'un des hommes à qui elle se fiait le plus, avec raison. Lorsqu'il fut entré, elle fit sortir la pucelle et ferma la porte. Puis elle dit « Beau doux ami, les barons de ce royaume veulent me marier à Mordred, qui est, je vous le dis en vérité, le fils du roi Artus, mon seigneur, et de la femme du roi Lot. Et ne le fût-il pas, j'aimerais mieux d'être brûlé que d'épouser ce traître déloyal. Aussi veux-je faire garnir la tour de l'ogre de chevaliers, de sergents, d'arbalétriers et de toutes sortes de vivres et d'armes. Et si l'on me demande pourquoi, je dirai que c'est pour la fête prochaine. Puis je m'y enfermerai. Que pensez-vous de cela ? Dame, je vous trouverai la garnison. Toutefois, si vous m'en croyez, vous enverrez un messager en Gaule pour savoir si le roi est mort, car le cœur me dit qu'il ne l'est pas. Et si Messire est trépassé, vous manderez à Lancelot qu'il vous vienne secourir. Jamais Mordret n'osera l'attendre en bataille rangée. » Ainsi fut fait. La tour bien garnie de vivres et d'hommes, tous preux et dévoués, la reine s'y retira. Et quand Mordret vint avec les barons, au jour dit, chercher sa réponse, elle fit lever le pont et lui cria par un créneau « Mordret, Mordret, c'est pour votre malheur que vous avez voulu m'avoir pour femme de bon gré ou non. Cette déloyauté vous mènera à la mort. » Aussitôt, Mordret courroucé fit assaillir la tour de toutes parts, par échelles et engins. Mais ceux du dedans se défendirent si roidement qu'il y eut bientôt plus de 20 morts dans les fossés, de façon que l'assaut cessa. Et ainsi en fut-il souvent, durant 2 mois. Mais le comte laisse maintenant ce propos, pour dire ce qu'il advint du combat de Lancelot du Lac et de Monseigneur Gauvin. Chapitre 31. Le combat de Lancelot et de Gauvin. Au matin, Lancelot ne manqua pas de hauts hommes pour l'armée, et quand il fut prêt, il monta sur un destrier, fort et vif, couvert de fer jusqu'aux sabots. Tous les autres se mirent à cheval pour l'accompagner au pré, sous les murs où devait avoir lieu la bataille. Après quoi, ils se retirèrent dans les barbacanes de la cité. Car il avait été convenu entre le roi Artus et le roi Lionel que nul n'approcherait, quoi qu'il advînt. À son tour, Messire Gauvin arriva, convoyé par une foule de comtes et de barons. Mais autant la compagnie de Lancelot semblait joyeuse, autant la sienne paraissait morne. Le roi Artus, tout dolent, le prit par la main et le mena dans le champ. Le roi Lionel, de même, conduisit Lancelot. Puis les deux rois s'enfurent, et après s'être signés, les champions brochèrent des éperons et s'élancèrent de toute la vitesse de leur destrier. Le jour était beau et clair, et le soleil luisait sur leurs armes. Mais, quand ils se rencontrèrent, on crut ouïr le tonnerre. Leurs lances éclatèrent au ras des poings, sautèrent en morceaux jusque au ciel, et ils se heurtèrent si rudement de leur corps qu'ils manquèrent de se crever. Vous les eussiez vus voler en l'air. Alors les chevaux déchargés de leur seigneur s'enfuirent chacun de son côté, sans que personne songeât seulement à les arrêter. Le premier relevé fut Lancelot, mais il était encore étourdi de sa chute, et il ne savait où il était. Et Messire Gauvin, après avoir ramassé son écu qui lui avait sauté du cou, fit resplendir sa bonne épée Excalibur, dont il lui asséna un tel coup sur le chef que le homme en fut bossué. Mais sachez que le choc remit Lancelot dans son droit sens. Il riposta sans s'étonner, et les lames claires et tranchantes commencèrent de voler plus vite que le vent, allant, venant, montant, descendant. Ainsi, durant longtemps, l'acier mordit l'acier. Les écus tombèrent par pièces, les haumes perdirent leur pierrerie qui était de grande vertu, les mailles des haubères sautèrent, et souvent les épées touchèrent la chair nue, faisant ruisseler le sang. De sorte qu'à tierce, si les deux champions eussent été d'aussi grande force qu'au début, ils ne fussent pas demeurés longtemps en vie, tant leurs armures étaient dépecées. Mais ils étaient là, au point que leurs épées leur tournaient dans la main quand ils se frappaient. Alors Messire Gauvin, le premier, recula et s'appuya sur les restes de son écu pour reprendre haleine. Lancelot l'imita. Ce que voyant, Lionel dit tout bas à Hector « Bon cousin, voici que j'ai peur et doutance pour Lancelot, car c'est la première fois que je le vois se reposer durant une bataille. »« Sire, répondit Hector, c'est pour l'amour de Monseigneur Gauvin qu'il le fait. Je sais bien qu'il n'en a pas besoin. » Cependant, les deux chevaliers demeuraient immobiles, appuyés sur leurs écus. Et messire Gauvain, certes, avait raison d'attendre de la sorte, car il était ainsi fait qu'à mesure que l'heure de midi approchait, ses forces augmentaient, pour décroître ensuite peu à peu, jusqu'à ce qu'il revînt à sa vigueur ordinaire. Mais, parce que d'aucuns pourraient tenir cela pour une fable, je dirai comment il avait reçu ce don. Ce conte-ci, en effet, ne laisse rien qu'il n'explique, tant il est bien renseigné. Quand il naquit, le roi Lot d'Orcanie, son père, le fit porter chez un ermite qui menait une vie si sainte que notre sire faisait souvent des miracles par lui. Le prud'homme le baptisa volontiers et l'appela Gauvain. « Beau sire, dit un des chevaliers qui avait apporté l'enfant, faites que le royaume d'Orcanie se loue de vous et que cet enfanson, lorsqu'il sera en âge de porter des armes, y soit plus habile que nul autre.
Sire, ce n'est pas de moi que viennent de telles grâces, mais de notre Seigneur. Je prierai Dieu pour lui. Demeurez séant jusqu'à demain matin. »
Et le lendemain, sitôt qu'il eut chanté sa messe, le prud'homme vint dire au chevalier « Sachez, beau sire, que cet enfant sera plus preux que tous ses compagnons, et qu'à midi, qui est l'heure même où il a reçu le Saint-Baptême, sa vigueur et vertu se trouveront si grandes que, pour peine et travail qu'il ait souffert depuis le matin, il se sentira aussi frais, aussi léger que s'il n'avait rien fait. » C'est pourquoi, quand messire Gauvain combattait quelques chevaliers de grande prouesse, il le pressait et harcelait autant qu'il pouvait jusqu'à midi. À ce moment, il devenait lui-même plus puissant et dispos qu'il n'était au début de la bataille, et n'avait pas de peine à outrer son ennemi lassé. Or, il parut assez qu'il avait ce don le jour qu'il combattit le fils du roi Ban de Bénoïc, car à midi, il lui courut sus tout soudain et se mit à frapper sur son écu, son haubert et son aume comme sur une enclume, tant qu'il le blessa en plus de 10 endroits. Lancelot se couvrait de son mieux, mais il souffrait beaucoup, et le roi Hector ne put s'empêcher de dire à haute voix « Dieu, qu'est-ce que je vois ? Prouesse, qu'êtes-vous devenu ? Ah, beau sire, êtes-vous enchanté pour avoir le dessous contre un seul chevalier ?» Ainsi en fut-il jusqu'à l'heure de Sixte. Mais, à ce moment, Lancelot, qui avait repris son haleine, courut su à son tour à monseigneur Gauvain, et commença de le frapper à si grands coups qu'il le fit chanceler et lui reconquit beaucoup de terrain. Ainsi, l'autre se vit bientôt en grand péril de mort. Telle était sa détresse que le sang lui coulait de la bouche et du nez. À Vêpres, les deux chevaliers étaient navrés en tant de lieux que d'autres à leur place fussent morts. Lancelot frappait encore. Mais messire Gauvain, plus dur qu'il eût les os et solide les nerfs, à peine lui restait-il la force de soulever son écu. Voyant cela, le fils du roi Ban recula de quelques pas. « Sire, dit-il, il serait bien juste que vous me tinssiez quitte, car celui qui appelle la trahison, s'il n'a vaincu avant Vêpres, il a perdu sa querelle. Ayez pitié de vous-même. » « Soyez assuré, répondit messire Gauvain, que l'un de nous doit mourir en ce champ. » Ce disant, il saisit Lancelot à bras-le-corps, mais celui-ci, qui savait très bien lutter, lui fit un tour de genoux et l'abattit rudement sur le ventre. Puis il alla devant le roi. « Sire, dit-il, je vous prie de demander à monseigneur Gauvain qu'il cesse cette bataille, car si nous continuons, il lui arrivera malheur. » « Lancelot, répondit le roi touché de cette débonnaireté, Gauvain fera comme il voudra, mais vous pouvez bien laisser le combat, car l'heure de Vêpres est passée. Sire, si je ne craignais que vous me le reprochassiez, je quitterais ce champ. Vous ne saurez rien faire dont je vous susse aussi bon gré. Je m'en vais donc avec votre congé. Soyez recommandé à Dieu, comme le meilleur des chevaliers et le plus courtois. » Là-dessus, Lancelot sortit du champ et revint vers les siens. « Que faites-vous, beau sire ?
lui cria Hector quand il approcha. « Laisserez-vous échapper votre ennemi mortel qui vous appela de trahison ? Il vous eût bien fait mourir s'il l'avait pu. Retournez, beau sire, et coupez-lui le cou, ainsi notre guerre sera finie. » « Dieu m'aide, j'aimerais mieux d'avoir reçu un coup de lance par la poitrine que d'oxyre un si prud'homme. »«
Tant pis, » dit le roi Lionel, « je crois que vous vous repentirez de votre débonnaireté. »
Chapitre 32. Départ pour la Grande-Bretagne. Mort de Gauvain. Quand Lancelot fut revenu au palais de Gannes et que les médecins eurent regardé ses plaies, ils s'émerveillèrent qu'il ne fût pas mort. Cependant, ceux de l'ogre couraient relever Monseigneur Gauvain, qui ne pouvait plus se soutenir, et ils le ramenaient dans la tente du roi, qui lui dit en pleurant de pitié « Beau neveu, votre folie vous a tué, et c'est grand dommage, car il ne sortira jamais de notre lignage un aussi bon chevalier que vous. » Mais Sire Gauvain était si mal en point qu'il ne put répondre mot. Et à le voir, chacun se prit à pleurer et à admirer qu'il eût fait, navré de la sorte, une si belle défense contre le meilleur chevalier du monde et qui était dans toute la vigueur de l'âge. Car Lancelot n'avait guère plus de 50 ans en ce temps-là, tandis que Messire Gauvain en avait près de 70. Toute la nuit, le blessé se plaignit. On craignait qu'il n'allât pas jusqu'au lendemain. L'émir disait que les plaies qu'il avait sur le corps étaient tellement horribles qu'ils en étaient tout troublés, qu'il les soignerait bien toutefois en y mettant ce qui serait bon pour cela, mais qu'il craignait de ne pouvoir guérir la blessure profonde qu'il avait à la tête. En sorte qu'à les entendre, les larmes du roi et de tous ceux qui étaient là coulaient à grosses gouttes jusqu'à terre. Au matin, un valet entra dans le pavillon. C'était le messager de la reine Guenièvre. Après avoir salué le roi et les prud'hommes, il conta tout ce qui était advenu en Bretagne la Grande. Comment Mordret s'était fait couronner roi, subtilement, et avait reçu les hommages de tous, et comme il tenait la reine assiégée dans la tour de l'ogre.
« Ah, Mordret ! » dit alors le roi. « Jamais nul père ne traita son fils comme je ferais. « Car je t'oxyrai de mes propres mains. »
Plusieurs hauts hommes entendirent ces paroles. Aussi connurent-ils que Mordret était le fils du roi Artus. Cependant, le roi faisait crier par toute l'armée qu'on se préparait à partir dès le lendemain, et aussitôt l'on commença de détendre et démonter les tentes et pavillons. Puis il fit accommoder une très bonne litière pour Monseigneur Gauvain, car il ne voulait l'abandonner en aucune manière, disant que, si son neveu mourait, il souhaitait d'être auprès de lui, et que, s'il vivait, il en serait d'autant plus heureux et joyeux. Et, dès que le jour devint clair, l'armée se mit en marche. Elle chevaucha tant qu'elle parvint au bord de la mer. Le roi fit coucher Monseigneur Gauvain dans sa propre nef, puis les barons embarquèrent avec leurs chevaux et leurs hommes, et comme le vent était bon, fort et portait bien, les mariniers mirent à la voile. Peu après, Messire Gauvain, qui était tout faible, ouvrit les yeux et murmura « Dieu, où suis-je ?»«
Sire, nous sommes sur la mer, » répondit un chevalier. « Nous regagnons le royaume de l'ogre. »
« Béni soit notre sire, puisqu'il lui plaît que je meure en Bretagne la bleue. »
« Ah, beau doux sire, pensez-vous donc sitôt mourir ?»«
Oui, sachez que je ne vivrai pas de jour, et je suis moins dolent de ma mort que d'expirer sans revoir Lancelot. Si j'avais pu lui crier merci de l'avoir si follement traité, il m'est avis que mon âme eût été plus aise après mon trépas. »«
Beau neveu, dit le roi qui était survenu, votre folie m'a fait grand dommage, car elle vous enlève à moi. « Vous que j'aimais sur tous les hommes, et en même temps Lancelot. Ah, jamais Mordret n'eût été si hardi que de commettre une telle félonie, si le meilleur chevalier du monde fût resté auprès de moi. »«
Quoi ? Mon frère Mordret a-t-il donc été déloyal envers vous ?» Le roi conta ce qui était advenu. dont Messire Gauvain fut plus ébahi et plus dolent qu'on ne saurait dire. « Hélas, j'ai trop vécu, murmura-t-il. Si je pouvais encore combattre, je serais le plus mortel ennemi de mon frère. Mais personne ne me verra plus jamais porter les armes. » À ces mots, il pâma, et le roi commença de mener si grand deuil que nul homme n'aurait pu le voir sans avoir pitié de lui. Toutefois, Messire Gauvain reprit son haleine, et, faisant signe au roi de s'approcher, il lui murmura tout bas, « Bel oncle, je me meurs. Je vous prie en nom Dieu de ne pas vous battre de votre corps contre Mordré, car si vous êtes tué par la main d'un homme, ce sera la mienne. Saluez de par moi Madame la Reine et vos prud'hommes, dont aucun ne reverra Lancelot. Que Dieu le garde. Avec lui, le pilier de la chevalerie s'écroulerait. Mandez-lui que je le salue et que je le prie de venir visiter ma tombe quand je serai trépassé, car il n'a point tant de dureté au cœur qu'il ne prenne pitié de moi. Sire, je vous requiers de me faire enterrer en l'église Saint-Étienne de Camaalot, auprès de mes frères, et dans le même tombeau que Gahurier. Et vous ferez écrire sur la lame « Si Gise, Gahurier et Gauvain, que Lancelot du Lac oxyde par leur faute. Car je veux être blâmé de ma mort, comme je l'ai mérité. Ah, Jésus-Christ, Père, ne me juge pas selon mes méfaits. » Il dit, et jamais plus il ne souffla mot par la suite. Ayant reçu le Corpus Domini, il trépassa du siècle, les mains croisées sur la poitrine. Le roi pâma plusieurs fois sur son corps, coup sur coup. Puis il commença d'arracher ses cheveux et sa barbe, qui étaient blancs comme neige neigée, criant « Ah, roi chétif et malheureux! Ah, Artus, tu peux bien dire que te voilà aussi dépouillé d'amis charnels que l'arbre l'est de ses feuilles quand la gelée est venue. Ah, fortune, chose contraire et diverse, tu fus jadis ma mère, et maintenant te voilà ma marâtre. Toi qui m'avais placé au haut de ta roue, comme en peu d'heures tu l'as fait tourner et me mets au plus bas. Ah, mort cruelle et félonne, tu n'aurais pas dû assaillir mon neveu. Si je savais que tu eusses quelque champion, je t'appellerais de trahison. » Ce disant, il se frappait la poitrine et s'égratignait le visage, de façon que le sang coulait à flots. Et tant que les barons, craignant de le voir mourir, l'éloignèrent, afin qu'il n'aperçût plus le corps. Cependant, il n'était personne sur les nefs qui ne pleurât et lamenta, comme si Messire Gauvain eût été son cousin Germain, car il était le chevalier le plus aimé de toutes gens. En vérité, si grande était la plainte dans les nefs, qu'on eût cru que notre sire faisait gronder sa foudre sur la mer. Mais le comte laisse à présent ce propos, voulant parler de la reine Guenièvre et de Mordré. Chapitre 33. Mordré contre le roi Artus. Certes, les assiégés n'eussent point résisté longtemps, tant à cause des Perrières et des Mangonneaux qui battaient la tour, que des assauts de Mordré et de ses gens, s'ils n'eussent point été si preux et vaillants. Cependant, Mordré mandait à lui les hauts hommes d'Écosse, d'Irlande, de Galles et de beaucoup de pays étrangers, qui tenaient leurs terres de la couronne de l'ogre. Et d'abord qu'il les voyait, il leur faisait de si riches dons et de si grands honneurs qu'ils en restaient tout ébahis. Grâce à quoi il se les attachait très bien, et il disait qu'il ne l'abandonnerait pas et le défendrait contre tous, voire contre le roi Artus en personne s'il revenait au monde. C'est ainsi que Mordré dépensait les trésors que le roi lui avait donnés à garder. Un jour qu'il revenait d'assaillir la tour, on lui dit que le roi Artus s'était embarqué pour reconquérir le royaume de l'ogre. Et il en fut tout éperdu, car il craignait que sa déloyauté ne lui nuisît s'il y avait une bataille. Il requit ceux à qui il se fiait davantage de le conseiller. « Sire, lui dirent-ils, nous n'avons d'autre avis à vous donner que celui de rassembler vos forces et de marcher contre Artus, en lui mandant de vider cette terre dont les prud'hommes vous ont saisi. Ces gens sont là et blessés. Ils ne sauront durer contre les vôtres, qui sont beaucoup plus nombreux et très dispos, car il y a longtemps qu'ils n'ont porté les armes. » De ces mots, Mordret eut un grand réconfort. Il manda tous ses barons et ses hauts hommes, et quand ils furent à Londres, il leur promit de les récompenser selon son pouvoir, si Dieu lui donnait l'honneur de la bataille, de manière que tous résolurent de se mettre en marche le lendemain pour aller à la rencontre du roi Artus. Chapitre 34. La reine dans une abbaye de nonnes. Cependant, la reine Guenièvre et ceux de la tour s'étonnaient de voir le siège levé. Mais ils connurent vite les nouvelles. Et la reine, quand elle les apprit, fut ensemble joyeuse et dolente, joyeuse de sa délivrance, dolente parce qu'elle craignait pour sa vie. « Si Mordret est vainqueur, songeait-elle, il reviendra et me tuera. Mais si Messire a le dessus, jamais il ne pourra croire que Mordret ne m'a point possédé charnellement, et il m'auxira sitôt qu'il me verra. Je prierai néanmoins notre Seigneur de lui donner la victoire et l'honneur de cette bataille, mais de faire qu'il m'épargne s'il est courroucé contre moi. » Elle passa la nuit à prier de tout son cœur, et le Sauveur l'écouta. Le lendemain, dès que l'aube eut crevé et que le jour fut né, elle partit de la tour avec ses deux pucelles les plus dévouées et deux écuyers très sûrs qui menaient chacun un sommier chargé d'or et d'argent. Et elle chevaucha tant en leur compagnie qu'elle atteignit une abbaye de nonains que ses ancêtres avaient fondée. On lui fit là l'accueil qu'on devait à une si haute dame qu'elle était. Mais, après avoir fait décharger ses sommiers, elle manda les deux pucelles et leur dit « Demoiselles, vous partirez si vous voulez. Si vous voulez, vous resterez. Quant à moi, je demeure, car je me veux rendre à Dieu comme les nonains qui sont séants. Ainsi fit ma mère, qu'on tint pour bonne dame et qui usa dans cette abbaye la fin de sa vie. » Les pucelles répondirent en pleurant qu'elles ne voulaient point la quitter. Et ensemble, toutes trois furent trouver l'abbesse à qui la reine demanda l'habit pour elle. « Ah, dame, répondit l'abbesse, si messire le roi était trépassé du siècle, nous vous recevrions bien volontiers et vous ferions dame de nous toutes. Mais il est en vie et nous n'osons vous garder, car sans faute il nous tuerait et détruirait. D'ailleurs, vous ne pourriez sans doute souffrir notre ordre, vous qui avez eu toutes les aises du monde. Il est de trop grande peine. » Mais la reine la tira à part et lui remontra que, si l'on refusait de la recevoir et qu'il lui arriva malheur hors de l'abbaye, le roi ne manquerait pas de s'en prendre aux nonnes. Puis elle lui avoua l'angoisse et la peur qu'elle avait et pourquoi elle désirait se rendre à Dieu. Tant qu'à la fin, l'abbesse consentit à la garder, disant qu'elle lui donnerait les draps de religion si le roi était tué par Mordret. Mais le comte laisse ce propos maintenant, voulant deviser du roi Artus qui vogue sur la mer avec son armée. Chapitre 35. Enterrement de Gauvain, la mort de Belloc. Ils eurent si bon vent qu'ils parvinrent en peu de temps devant le château de Douvres, où le roi manda à ceux de la ville de lui ouvrir la porte. Ils répondirent d'abord qu'ils le croyaient mort, mais quand ils le virent, ils le reconnurent très bien, et l'accueillirent comme leur seigneur liege. Alors le roi fit ensevelir Monseigneur Gauvain dans des draps de soie tout ouvrés d'or et de pierreries, puis mettre dans un cercueil très riche. Après quoi, il commanda à 10 de ses chevaliers de mener le corps à Saint-Étienne de Camaalot et de le placer dans la tombe de Gaherier. Et ainsi s'en fut le bon chevalier, convoyé par le roi et une multitude de seigneurs, de bourgeois et de menus peuples, qui tous pleuraient et criaient « Prud'homme, chevalier sûr, courtois, débonnaire, maudite soit la mort qui nous prive de vous. Que ferons-nous maintenant que nous avons perdu celui qui était notre écu ?» Ainsi allèrent-ils jusqu'à 3 lieues de la ville. Puis le roi et ses gens s'en revinrent avec le peuple, tandis que les 10 chevaliers continuaient leur chemin. Ils chevauchèrent tout le jour, et le soir, leur aventure les mena dans un château qui avait nom Belloc. Comme ils entraient avec le cercueil dans la salle du palais, la dame du château leur demanda quel était ce corps, et quand elle le sut, elle courut se jeter sur la bière, criant « Ah, messire Gauvin, quel dommage fait votre mort à toutes les dames et demoiselles que vous aidiez et protégiez mieux que tout autre. Et moi, j'ai perdu le chevalier du siècle que j'aimais davantage, le seul que j'ai jamais aimé. » À ces mots, le sire de Belloc, son mari, fut si irrité qu'il courut prendre une épée et l'en frappa de telle sorte qu'il lui trancha l'épaule et fit entrer la lame d'un demi-pied dans le cercueil. « Messire Gauvin, mon doux ami, me voilà morte pour vous !» dit-elle avant d'expirer. « En nom de Dieu, mettez mon corps en terre auprès du sien !» Cependant, les chevaliers qui convoyaient la bière avaient désarmé le brutal, et l'un d'eux lui criait en colère « C'est grande honte que vous nous faites, sire chevalier, d'oxyre devant nous cette dame. Dieu m'aide, vous vous en souviendrez. » Ce disant, il haussa l'épée et abattit mort le seigneur de Belloc. Et le lendemain, il repartit avec ses compagnons, emportant le corps de la dame avec celui de monseigneur Gauvin. Et ils chevauchèrent tant qu'ils arrivèrent enfin à Camaalot, où les deux morts furent enterrés, comme ils l'avaient souhaité de leur vivant. Mais le conte à présent retourne au roi Artus. Chapitre 36. Songe du roi et présage. Le soir, à Douvres, comme il dormait dans son lit, il crut voir son neveu Gauvin venir à lui, plus beau qu'il ne l'avait jamais connu, et suivi d'une foule de pauvres gens qui tous criaient « Roi Artus, nous avons conquis l'entrée de la maison de Dieu pour ton neveu, à cause du bien qu'il nous a fait de son vivant. Agis comme lui, et tu feras que sage. » Cependant, messire Gauvin approchait du roi et lui disait, après l'avoir accolé, « Sire, gardez-vous de combattre Mordred de votre corps, car vous seriez par lui blessé à mort. »« Dussé-je en périr, beau neveu, je le combattrai, » répondait le roi, « car je serais récréant si je ne défendais ma terre contre un traître. Par l'âme de mon père Uther Pendragon, je jure que je ne reculerai pas. » À ces mots, messire Gauvin s'éloignait en menant le plus grand deuil du monde. Et peu après, le roi, sommeillant toujours, crut voir une très belle dame qui le prenait par les flancs et l'asseyait sur un siège au sommet d'une roue immense. « Artus, lui disait la dame, sache que tu es présentement sur la roue de fortune. Que vois-tu ? Dame, il me semble que je découvre le monde entier. Tu le vois, et tu as été l'un des plus puissants de ce monde. Mais il n'est nul, pour haut placé qu'il soit, qui ne doive un jour tomber. » Là-dessus, la belle dame faisait tourner sa roue et choir le roi, si traîtreusement qu'il lui semblait être tout brisé. Au matin, quand il se fut réveillé, il fit le signe de la croix sur son visage et s'écria « Beau Père Jésus-Christ, qui avait permis que j'eusse tant d'honneur en ce siècle, ne souffrez pas, doux sire, que je perde cette bataille, mais donnez-moi la victoire sur mes parjures et déloyaux ennemis. » Puis il alla ouïr la messe et se confesser à un archevêque de tous ses péchés. Après quoi il se mit en marche avec ses gens. Deux jours plus tard, il parvint dans la plaine de Salisbury. C'était la plus belle place et la plus grande qu'on pût trouver pour une bataille, et il voulait attendre là Mordred. Après souper, tandis que ses hommes dressaient les tentes, il fut se promener dans la lande, et, en passant près d'un grand et dur rocher, il vit que des lettres, qui semblaient vieilles, y étaient gravées. « En cette plaine aura lieu la mortelle bataille qui laissera le royaume de l'ogre orphelin. » Ainsi parlaient les lettres, et c'était Merlin qui jadis les avait écrites. Quand le roi les eut lues, il baissa la tête, car il connut bien qu'elle prédisait ouvertement sa mort. Pourtant il se jura qu'il ne retournerait pas en arrière. Chapitre 37. Bataille de Salisbury, le carnage. Or, le comte dit que les Saines, qui haïssaient mortellement le roi Artus, étaient venus aider à Mordret. Et il avait aussi avec lui une foule de chevaliers d'Écosse, d'Irlande et de Galles, tant que son armée était deux fois plus nombreuse que celle du roi. Lorsque ces gens débouchèrent dans la plaine de Salisbury, ils y trouvèrent leurs ennemis qui les attendaient, rangés en 10 échelles, dont les pennons flottaient au vent. Alors vous eussiez vu toutes les lances s'abaisser ensemble, et les deux avant-gardes s'élancer l'une contre l'autre, et maint prud'homme mourir, qui ne l'avait pas mérité, car en peu d'instants, la terre fut couverte de chevaliers, tués, blessés ou abattus, et beaucoup de bons chevaux galopèrent en liberté. Ah, la dure rencontre! Et quand les lances furent rompues, les épées resplendirent, lumière de la guerre, et les chevaliers commencèrent de se couper, épaules, jambes et bras, et de baigner leurs lames dans les cervelles, à travers les haumes. Et ce fut le début de la grande bataille, où le royaume de l'ogre fut détruit, car il n'y restait plus autant de prud'hommes qu'il s'y en était trouvé jadis, et presque tous ceux qui demeuraient périrent ce jour-là. En tête des Saines galopait Arco, leur roi, qui voulait avoir la première joute. Sagremort le Desrée vola contre lui de toute la vitesse qu'il put tirer de son destrier, et le heurta si rudement qu'il lui troua l'écu et le haubert, et lui mit son fer aigu dans la poitrine, et le renversa mort. Ce que voyant, ceux de la première échelle se jetèrent sur les Saines d'un tel cœur qu'ils les déconfirent en peu de temps. Mais ceux d'Irlande ne purent souffrir de voir leurs compagnons si vilainement traités. Ils brochèrent leurs chevaux et fondirent comme une tempête. Leur roi s'adressa à Sagremort, dont la lance était brisée, et le blessa au côté. Mais, au moment que le roi le croisait, le Desrée, d'un seul coup d'épée, lui fit voler la tête avec le haume. Néanmoins, ceux d'Irlande étaient beaucoup plus nombreux, et tout frais et dispos, comme ceux qui n'ont pas encore donné, en sorte qu'ils tuèrent presque tous les chevaliers de la première échelle. Et dans la mêlée, Sagremort fut aussi de 2 coups de lance par le corps. Dodinel le sauvage vit cela. Certes, grand fut son deuil. « Franc chevalier » crie-t-il au sien, « or paraîtra qui pressera. » Et il s'élance droit comme un carreau d'arbalète, suivi de ses gens, écrasant les blessés et les morts, et la terre commence de rougir de sang. Il fendait la presse, tranchant à droite et à gauche, si rapidement que 3 hommes n'auraient pu mieux faire. Lorsqu'il aperçut le corps de Sagremort, qu'emportaient des chevaliers irois, aussitôt il fond sur eux et les éparpille à grands coups, et ce faisant, il pleurait de douleur, disant « Hélas, je l'ai tué, mais Sagremort ne retrouve pas la vie pour autant. » Et tandis qu'il gémissait ainsi, un chevalier lui vint par le travers, la lance basse, et le frappa si durement que le fer parut de l'autre côté, et qu'il ne fut pas besoin de médecin. Dodinel tomba mort sur le corps de son compagnon très ancien. Alors ces gens, qui donnaient la chasse à ceux d'Irlande, abandonnèrent la poursuite, et l'un après l'autre, ils vinrent s'assembler autour de leur seigneur trépassé, tout pleurants et gémissants, de façon que leurs ennemis se remirent, et revenant à eux, les tuèrent pour la plupart. Et sans doute les auraient-ils tous oxy, si le vieux roi Carados Biebras n'était accouru à la rescousse avec la 3e échelle. Tel fut le choc que ceux d'Irlande ne le purent soutenir. Ils tournèrent bride à nouveau, et vous en eussiez vu plus d'un verser échoir. Mais les barons d'Écosse brochèrent des éperons pour les secourir, et leur sire, qui avait nom Eliade, s'adressa au vieux roi, qu'il reconnaissait à ses armes pour un haut homme. Or, sachez que le roi Carados avait plus de 90 ans. Mais personne ne le tint jamais pour croire, et ses coups d'épée faisaient plier les reins. Il ne refusa pas Eliade. Tous deux se heurtèrent de leurs lances au fer tranchant, et si rudement qu'ils tombèrent navrés à mort. Ainsi, ni l'un ni l'autre n'eut l'occasion de railler son ennemi. Des deux parts, leurs hommes s'empressèrent de les secourir, mais ceux de Carados firent tant qu'ils restèrent maîtres du terrain. « Beau seigneur, leur dit le vieux roi lorsqu'ils l'eurent relevé, je suis mort. Pensez seulement à me venger, et ne faites pas semblant de me plaindre et regretter, car les nôtres en pourraient être déconfortés, et les ennemis enhardis. Couchez-moi sur mon écu et portez-moi sur ce traître. Je mourrai plus aise en regardant la bataille. » Ainsi firent-ils en pleurant. Puis ils prirent congé de lui et retournèrent au combat, où ils se mirent à frapper comme charpentiers sur poutre, et tuèrent presque tous les Écossais. Mais alors les Gallois laissèrent court, puis ceux de Northumberland, puis l'une après l'autre toutes les échelles de Mordret, criant leurs enseignes en divers langages. Et le roi Artus lança tour à tour les siennes à la rescousse. Des deux parts, les prud'hommes appuyaient si bien leurs coups qu'à chaque rencontre, plus de la moitié était toxie. Puis, ceux qui demeuraient en selle faisaient briller leurs épées et s'entretuaient, foulant aux pieds des chevaux les blessés et les morts. Certes, il n'y avait pas dans tout le reste du monde autant de bons chevaliers qu'on en vit là, gisant comme brebis égorgées. Et le claquement des lances, le heurt des écus, le tintement des haumes, le cliquetis des haubères, le froissis des épées, les cris, les plaintes, tel était le bruit qu'on n'eût pas entendu Dieu tonnant. Ah, bien des dames perdirent leur baron ce jour-là. La poussière montait jusque au ciel. Le soleil en était obscurci. Chacun se hâtait de venger la mort de son compagnon. Il se haïssait si fort qu'il n'en était pas un qui ne souhaitât d'arracher à son ennemi le cœur sous la mamelle. Non, depuis que la chrétienté était venue au royaume de l'ogre, jamais il n'y avait eu une si mortelle bataille, comme la vraie histoire le témoigne. À Thiers, il ne restait guère que 2000 fers vêtus dans la plaine. Toutes les échelles étaient détruites. Or, celle du roi Artus et celle de Mordret, qui n'avait pas encore donné. Le roi fit monter un garçon sur un arbre, et quand il sut que la gente de Mordret était deux fois plus nombreuse que la sienne, « Ah, beau neveu » s'écria-t-il, « Gauvin, plût à Dieu qu'à cette heure vous fussiez à mon côté, avec Lancelot !» Il vint aux compagnons de la table ronde, dont il lui demeurait une vingtaine, et les pria de ne pas se séparer, mais de combattre ensemble et de garantir l'honneur du royaume du mieux qu'ils pourraient. « Sire, répondirent-ils, il n'y a personne parmi nous qui ne vous aide jusqu'à la mort. » Alors le roi fit lever son étendard par queue de sénéchal. Puis, voyant que Mordret approchait à grand bruit de ses cors, tambours et bucines, il fit le signe de la croix, prit son écu et sa lance, et commanda aux siens d'avancer. Chapitre 39. La mort de Queue, la fin d'Artus, la mort de Giflet. Quand les compagnons du roi Artus le virent choir et son sang jaillir, ils le crurent mort, et ils sentirent alors la plus grande douleur qu'un cœur mortel puisse éprouver. De nouveau, ils se ruèrent sur les gens de Mordret, et la mêlée cruelle et félonne dura jusqu'à temps qu'il ne resta plus, outre le roi, que deux hommes vivants dans la lande, Queue le sénéchal et Giflet le fils de Dos. Ils revinrent à l'endroit où ils avaient vu tomber leur seigneur, et ils le trouvèrent assis sur son séant. « Sire, dirent-ils tout ébahis, comment vous sentez-vous ? Las, je ne veux pas mourir au milieu de mes ennemis. Allons vers la mer prochaine. » Ils le hissèrent sur un cheval, et le soutenant du mieux possible, ils parvinrent à Vêpres devant une chapelle qui avait nom la chapelle de Verre. Le roi fut se prosterner devant l'autel, où il commença de réciter toutes les oraisons qu'il savait. Et sachez que toute la nuit, il pria notre Seigneur d'avoir pitié de ces hommes qui avaient été tués. Au matin, que le sénéchal et Giflet entrèrent, désarmés, et voyant son Seigneur étendu sans mouvement, les bras en croix, que le crut trépassé du siècle, il se jeta à genoux. « Ah, roi Artus ! » s'écria-t-il, « c'est grand dommage que tu sois mort !» Mais le roi se souleva et embrassa son sénéchal. Et non point par courroux, mais par angoisse et amour, il le serra si fort sur sa poitrine qu'il le froissa tout et lui creva le cœur. Ainsi l'âme de queue lui partit du corps. Quand le roi le laissa, il tomba mort. « Sire ! » s'écria Giflet, « vous avez mal fait !» À ces mots, le roi regarda alentour de lui, et quand il vit que, gisant, il se mit à pleurer. « Hélas ! » soupira-t-il, « la fortune qui m'avait été bonne mère et amie jusqu'ici veut que je passe dans la douleur les dernières heures de ma vie. Giflet, scellez les chevaux et partons d'ici. » À midi, enfin, ils atteignirent le rivage de la mer. Et là, le roi Artus descendit. Puis il dessaignit son épée, la tira du fourreau, et après l'avoir longtemps regardée, il dit tristement « Marmiadoise, bonne épée, la meilleure qui ait jamais été, hormis celle aux étranges ranges. Tu vas perdre ton maître et droit seigneur. Seul Lancelot serait digne de te porter. Ah, plût à Jésus-Christ qu'il pût avoir. Mon âme en serait plus aise. Giflet, derrière cette colline, vous trouverez un lac. Allez-y jeter mon épée. » « Sire, je ferai votre commandement. Mais il vaudrait mieux, si tel était votre plaisir, que vous m'en fissiez don. » « Non, répondit le roi. » Giflet prit l'épée. Mais quand il fut au bord du lac, il tira la lame pour la regarder, et à la voir si claire et si belle, il pensa que ce serait trop grand dommage que de la perdre. « Mieux vaut que je jette la mienne et garde celle-ci, » se dit-il. Et posant Marmiadoise sur l'herbe, il lança sa propre épée dans l'eau. Après quoi, il revint auprès du roi. « Sire, j'ai fait ce que vous m'aviez commandé. » « Et qu'as-tu vu ?»«
Rien de bon. » »«
Giflet, tu me peines et chagrines sans raison. Retourne au lac et jette-y mon épée. » Giflet revint sur ses pas, pensant qu'il noierait le fourreau, mais non la lame, et ainsi fit-il. Mais quand il fut à nouveau devant son seigneur, « Qu'as-tu vu ?» lui demanda le roi.
« Sire, rien que de naturel. »
« C'est donc que tu ne l'as pas encore jeté. Va-t'en et fais ce que je t'ai commandé. C'est péché que de me tourmenter de la sorte. » Alors le fils de Do, tout honteux, s'en fut au bord du lac pour la troisième fois, et il se mit à pleurer quand il tint la bonne lame dans sa main, brillante comme une escarboucle. Pourtant il la jeta aussi loin qu'il put. Or, au moment qu'elle allait toucher l'eau, il vit surgir une main qui la saisit par le pommeau et qui la brandit par trois fois, puis tout disparut sous l'onde. Longtemps il attendit, mais il n'aperçut plus rien que l'eau frissonnante. « C'est bien, » dit le roi quand il connut ce qui s'était passé. « Maintenant, beaux doux amis, il vous faut partir et me laisser, et sachez que jamais plus vous ne me verrez. » À ces mots, Giflet eut grand deuil. « Ah, sire, comment serait-il possible que je vous abandonnasse de la sorte et ne vous visse plus? Mon cœur ne le pourrait souffrir. Il me faut vivre ou mourir avec vous. »
« Je vous en prie, » dit le roi, « de par l'amour qui a toujours été entre nous. »
Alors, les larmes aux yeux, Giflet, le fils de Do, s'en fut sur son destrier. Et sachez que, lorsqu'il fut à un quart de lieue, il commença de pleuvoir si merveilleusement qu'il dut s'abriter sous un arbre. Mais, l'orage passé, regardant vers la mer, il vit approcher une belle nef, toute pleine de dames avenantes, qui aborda non loin du lieu où il avait laissé le roi, son seigneur. L'une d'elles, qui était Morgane, la fée, appela et le roi se leva. Puis, tout armé, suivi de son cheval, il monta dans la nef, qui tendit ses voiles au vent et s'enfuit comme un oiseau. Le comte dit qu'elle s'en fut droit à l'île d'Avalon, où le roi Artus vit encore, couché sur un lit d'or. Les Bretons attendent son retour. Et ainsi s'accomplit la parole du prophète Merlin, qui avait prédit que sa fin serait douteuse. Durant 2 jours et 2 nuits, Giflé pleura, sans boire ni manger. Puis, le 3e jour, au matin, sitôt que les oiseaux chantèrent, il brida son destrier et s'en retourna à la chapelle de verre. Et d'abord qu'il y entra, il aperçut une riche tombe devant l'autel, sur laquelle étaient des lettres qui disaient « Sigi, que le sénéchal, que le roi Artus étreignit à mort contre sa poitrine. » D'abord qu'il lut cela, le fils de Do tomba pâmé. Puis il alla trouver les moines qui desservaient la chapelle, disant qu'il ne voulait plus demeurer dans le siècle puisque le roi ni aucun de ses compagnons n'y était plus, et les requis de le vêtir des draps de religion. Mais il ne les garda guère, car il ne vécut plus, ensuite, que 17 jours. Et le comte, à présent, laisse ce propos pour deviser de Monseigneur Lancelot du Lac, d'Hector des Mares et du roi Lionel, qui était resté dans la petite Bretagne et dont il n'a dit mot depuis très longtemps. Chapitre 40. Bataille de Winchester, la mort des fils de Mordred, conversion de Lancelot. Sitôt qu'ils apprirent la mort du roi et ce qui était advenu au royaume de l'Ogre, ils se hâtèrent de mander leurs hommes et se mirent en chemin pour gagner la mer et passer en Grande-Bretagne. Mais, le jour même qu'il débarqua, Lancelot apprit que la reine était morte et trépassée depuis 3 jours dans son abbaye. « Ah, sachez, seigneur, que jamais si haute dame ne fit une plus belle fin, ni ne cria plus doucement et tendrement merci à Jésus-Christ. » Mais Lancelot fut tellement dolent que nulle langue ne saurait dire son chagrin. C'est qu'il avait plus aimé sa dame qu'aucun homme mortel n'aima jamais la sienne. Il marcha avec son armée sur Winchester, où les 2 fils de Mordred s'étaient réfugiés. Et, quand ils surent qu'il approchait, ils se dirent qu'il valait mieux risquer contre lui une bataille dont Dieu leur donnerait l'honneur s'il lui plaisait, que d'aller, fuyant par le pays. C'est pourquoi ils sortirent avec leurs gens et attendirent Lancelot et les siens dans la plaine. La mêlée dura de tierce jusqu'à none, car il y avait beaucoup de fer vêtu de part et d'autre. Mais à ce moment, Meuleban, le plus jeune fils de Mordred, prit une lance courte et grosse, à fer tranchant et aiguisé, et s'adressa au roi Lionel. Il le heurta par le travers, poussant de toute sa force, et tant qu'il lui mit son froid acier dans le cœur, et l'abattit mort. Aussitôt Hector courut su à Méléan et lui trancha d'un coup le haume, la coiffe de fer et la tête jusque aux dents. Puis il se jeta au milieu de la presse, tel un loup dans la bergerie, tuant tout ce qu'il atteignait, si bien qu'autour de lui, les rangs fondaient comme la glace au soleil et que la terre était couverte de corps gisants. À voir cela, ceux de Winchester pensèrent à garantir leur vie, et bientôt ils commencèrent de s'enfuir, rudement pourchassés, vers une forêt qui s'étendait près de là, à moins de 2 lieues anglaises. Cependant, il advint que Lancelot reconnut le fils aîné de Mordred à ses armes, qui étaient semblables à celles que le père accoutumait de porter. Alors il eut un rire en son âme. Il lui courut su, prompte comme la foudre qui descend du ciel, l'épée haute, et vainement l'autre jeta son écu à l'encontre du cou. La lame trancha le bouclier avec le poing qui le tenait. Le fils de Mordred piqua des deux et s'enfuit vers la forêt, comme fait le cerf devant les chiens. Et ainsi la longue chasse commença. sachez qu'ils galopèrent tout le reste du jour, l'un appelant et menaçant, l'autre brochant si rudement que le sang coulait des flancs de son destrier, et tant qu'ils arrivèrent au cœur de la forêt. Enfin, le cheval du fuyard broncha et tomba, et le fils de Mordret se mit à genoux, criant merci. Mais Lancelot, au passage, d'un seul coup lui fit voler la tête. Après quoi, sans donner au corps un seul regard, il se mit en devoir de rejoindre ses gens. Mais il perdit bientôt son chemin. Et tandis qu'il croyait se rapprocher de Winchester, il s'en éloignait toujours davantage. Après avoir marché toute la nuit, il se vit, au matin, en face d'une montagne, déserte et rocailleuse, et, gravissant un sentier, il parvint à un pauvre ermitage au pied d'une chapelle petite et ancienne. Deux prud'hommes en robe blanche sortirent pour lui faire accueil, dont l'un, l'ayant avisé, courut à lui les bras tendus et la colla tendrement. C'était l'évêque de Rochester, qui avait jadis fait la paix de la reine Guenièvre et du roi Artus. « Beau sire, lui dit Lancelot, depuis quand êtes-vous ici? J'ai grande joie de vous avoir retrouvé. » L'évêque conta qu'après la douloureuse journée de Salisbury, dont il n'était resté que le roi Artus, que le sénéchal et Giflé fils de Do, il s'était réfugié dans cet ermitage, où il voulait user le reste de sa vie au service de notre Seigneur Jésus-Christ, en compagnie du prud'homme qui y logeait. « Et vous, beau sire, ajouta l'évêque, que ferez-vous désormais? Ne penserez-vous pas à amender votre vie, dont vous avez passé la plus grande partie en péché mortel? Sachez qu'il en serait grand temps, et que Dieu se réjouit moins de son juste que d'un pécheur qui vient à repentance. » « Sire, répondit Lancelot, vous avez été mon compagnon dans le siècle. S'il vous plaît, je serai le vôtre ici. » À ces mots, l'évêque et son compagnon tendirent les mains au ciel et remercièrent Dieu de bon cœur. Lancelot demeura auprès d'eux à servir son Créateur de tout son pouvoir. Et sachez que l'évêque lui en apprit tant qu'il devint prêtre chantant messe. Mais le comte le laisse pour un instant et retourne à parler de son frère. Chapitre 41. La mort d'Hector des Mares et de Lancelot du Lac. Après la mort et la fuite des fils de Mordret et de leurs gens, le roi Hector entra dans la ville de Winchester et y fit enterrer Lionel, aussi richement qu'il convenait à un roi couronné. Puis vainement il fit chercher Lancelot. Il n'en put avoir de nouvelles. Alors il recommanda ses hommes à Dieu en leur disant de faire roi qui il voudrait à sa place, car il ne le verrait plus. Et il se mit en quête de son frère. Un jour, son aventure le conduisit justement à l'ermitage où vivait Lancelot. Tous deux s'accolèrent à grande joie, et Hector ne voulut plus partir. Il s'offrit à son tour au service de notre Seigneur. Ainsi, les deux frères vécurent ensemble durant 4 ans, menant si bonne vie et priant, jeûnant, veillant tant et tant, qu'il n'était pas d'autre homme qui eût pu souffrir une si grande peine. Au bout de ce temps, Hector mourut et fut enterré dans l'ermitage même. Et peu après, 15 jours avant mai, Lancelot sentit venir sa fin. Il pria l'évêque et l'ermite, ses compagnons, de transporter son corps à la Joyeuse Garde et de le mettre dans la même tombe où était Galeot, sire des îles lointaines. Puis il expira. Alors, les deux prud'hommes firent une bière où ils couchèrent le mort, et, la portant à grand-peine sur leurs épaules, ils s'efforcèrent si bien qu'ils arrivèrent au château. Là, ils firent lever la tombe de Galeot, et Lancelot y fut étendu auprès de son compagnon ancien. Puis des lettres furent gravées sur la lame qui disait « Sigi, le corps de Galeot, seigneur des îles lointaines, et auprès de lui repose Lancelot du Lac, qui fut le meilleur chevalier qu'on ait jamais connu au royaume de l'Ogre, hormis seulement son fils Galaad. Après l'enterrement, vous auriez pu voir les gens du château baiser la tombe, comme si c'eût été celle d'un saint. Quant à l'évêque, il s'en retourna à l'ermitage avec son compagnon, où tous deux employèrent leurs derniers jours à glorifier leur Créateur. Chapitre 42. Adieu. Et le comte se tait à présent, car ici finit l'histoire de Lancelot du Lac et du Saint Graal et du bon roi Artus, telle qu'elle se trouve dans les anciens écrits. Nul n'en pourrait dire davantage qu'il ne mentit du tout au tout. Je rends grâce à notre Seigneur, comme doit faire un pécheur à donner au siècle, de ce qu'il m'a octroyé pouvoir et loisir de terminer le riche ouvrage que j'ai entrepris. Car je me suis travaillé beaucoup et appliqué curieusement pour le mener à fin. Et j'ai achevé une longue œuvre. Maintenant qu'elle est faite, je me reposerai un peu, s'il plaît à Dieu, et prendrai quelques divertissements. Deo gratias.